Bonjour à toutes et à tous. Émilie Glory derrière le micro cette semaine pour vous accueillir dans ce nouveau numéro de l'émission Libre Propos en compagnie bien sûr de l'évêque de Chartres, Monseigneur Philippe Christori. Bonjour Père.
Bonjour Émilie.
Je rassure les fidèles auditeurs de cette émission, Christophe Jubien sera de retour dès la semaine prochaine. Alors Père, c'est un sujet très important pour le diocèse et plus largement pour l'Église catholique de France dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le denier de l'Église. Alors traditionnellement, une campagne est lancée à la fin de l'année civile pour rappeler l'importance de faire un don. Moi, j'aimerais peut-être commencer par le commencement. À quoi sert le denier ?
Le denier, c'est une participation des baptisés à la vie de l'Église qui, normalement, finance ce qu'on appelle le traitement des prêtres, donc l'argent qu'ils reçoivent, et les salaires des laïcs, salaires et charges, qui travaillent pour l'Église, soit au niveau du diocèse, soit dans les paroisses aussi. Tous les salaires qui peuvent correspondre à des gens en mission pastorale, parfois plus pratiques, comme du secrétariat, de la comptabilité. Tout ce qui permet d'accompagner, notamment, tous nos bénévoles derrière, qui font un travail magnifique.
On est dans le fonctionnement concret d'un diocèse.
Très concret. C'est un diocèse, ce n'est pas une grosse structure, c'est plutôt une petite PME. Il y a une centaine de personnes qui touchent un salaire, beaucoup c'est des temps partiels, parce que, par exemple, des personnes qui ont une famille et qui donnent 2 jours, mais qui donnent de la vie, qui donnent des talents, et dont la stabilité par le travail permet d'organiser quand même ou la catéchèse, ou des événements, ou des missions, de l'accueil. Donc c'est important, oui.
C'est important aussi pour les fidèles, pour les paroissiens. Parfois, on a peut-être du mal à faire le lien entre ce denier et puis ce qu'on peut vivre chacun en paroisse.
Effectivement, quand on est paroissien d'une paroisse à la campagne, par exemple, peut-être que sans le savoir, on bénéficie quand même d'un travail derrière, d'accompagnement. Je pense à des formations de catéchistes, des formations par exemple de nombreux laïcs qui aident aux funérailles. Parfois ça peut être des sessions, des récollections. Et puis il y a aussi pratiquement, il faut organiser la vie matérielle. Il nous faut des compétences en matière de gestion, des bâtiments, des presbytères, parfois des œuvres d'art ou des églises. Donc il y a tout un savoir-faire qui est un peu en arrière-plan, qui est nécessaire.
Oui, il y a une équipe plutôt discrète dans un diocèse, je pense au service des pastorales. C'est l'occasion dans cette émission, en tout cas, de saluer leur travail qu'on peut, nous, en tout cas ici à la Visitation, constater tous les jours.
Oui, il y a une grande générosité. Et puis j'ai envie de dire, vous savez, ce sont des gens qui ne comptent pas leur temps. Hein, donc ils ont souvent un salaire qui est assez modeste, parce qu'on n'a pas forcément de grands moyens, mais qui sont très généreux et dont leur enthousiasme apporte beaucoup.
Alors, quels sont les besoins ? On entend souvent, alors ça fait partie des préjugés, l'Église, c'est bon, l'Église a les moyens, l'Église a de l'argent. Qu'en est-il réellement ? Quels sont les besoins ? Quel est, sans rentrer bien sûr dans les détails, mais un petit peu l'état des finances et de l'Église, et en particulier du diocèse ?
Le diocèse a des... d'abord ce personnel, ces salariés qui sont là, et l'ensemble des prêtres pour qui on apporte ce traitement, puis le cadre de vie, il faut des presbytères, il faut parfois une voiture, on a 8 prêtres étudiants par exemple qu'on finance entièrement, donc leur mutuelle, ils viennent d'Afrique, leur mutuelle, leur déplacement, beaucoup de choses. En gros, tout cet ensemble, on peut dire salarial, ça correspond à un petit 2 millions d'euros. C'est pas rien, le denier rapporte 1 200 000, donc on est loin de couvrir ces 2 millions. Normalement, il faudrait qu'on arrive à couvrir cela. Mmh. On a environ 4 000 donateurs. C'est un chiffre qui n'évolue pas à la hausse, malheureusement, le nombre de donateurs. Mais ce qui augmente un peu, c'est la générosité. On voit que le don moyen est en croissance, les gens prenant conscience que c'est important. Maintenant, en Eure-et-Loire, on a au moins 200 000 baptisés catholiques, si ce n'est pas plus. Donc j'en appelle effectivement à ceux qui sont baptisés de se dire c'est quand même notre Église que les uns et les autres sont heureux de retrouver pour un mariage, pour un baptême, pour des funérailles, même si parfois ils sont effectivement au quotidien pas présents à l'église, nous sommes là à leur côté, aussi auprès des personnes en difficulté, donc c'est précieux d'avoir cette aide.
Alors ça nous amène peut-être à des questions un peu plus douloureuses, puisque l'Église catholique fait face à une crise de confiance. Il y a aussi une conjecture qui peut dissuader certains donateurs. Comment les rassurer par rapport à toutes ces affaires qui ont pu ressortir cette année, les années précédentes, et qui ont peut-être éloigné certains baptisés de l'Église catholique ?
Oui, j'entends bien ce message-là. J'ai eu des échos parfois de gens qui étaient blessés. Bien sûr, il y a eu quelques affaires de pédophilie très graves dans l'Église catholique. Et des victimes peut-être m'écoutent et je leur dis toute ma compassion. J'ai écouté plusieurs personnes et je sais que c'est... On a découvert à quel point c'était douloureux et c'est douloureux toute leur vie. Donc il faut beaucoup de compassion. Maintenant, l'Église est faite aussi de nous, qui sommes pécheurs, de gens qui sont limités. On peut avoir un curé merveilleux, on peut avoir un curé qui est moyen, on se dit, bon, il ne parle pas comme il veut que je parle, bon, comme j'aimerais qu'il me parle, ou bien on peut avoir des laïcs qui sont investis plus ou moins talentueux. Mais en même temps, ça reste notre Église, ça reste notre famille, ça reste... Vous savez, moi je dis souvent, on ne donne pas au denier parce que le curé parle bien, on donne parce que c'est ma famille, parce que c'est mon Église. Après, comme garantie, je pense pouvoir affirmer très clairement que la gestion de ces moyens, qu'on reçoit des dons, est très bien faite. Il y a un économat, il y a des conseils, on a des experts comptables extérieurs qui viennent vérifier nos comptes, ce qu'on en fait. Les dépenses sont faites avec soin, on a un délégué aux travaux, on a un homme qui est conseiller ressources humaines, donc on est attentif aussi au salaire, à faire les choses, je pense, assez avec autant de justesse qu'on peut. Je pense qu'on n'est pas dans laxisme par rapport à cet argent. Et je sais que certains donnent des sommes qui sont pour eux conséquentes. Autrement dit, cet argent, ils s'en privent pour autre chose. J'aimerais les rassurer. Je pense que je m'assure aussi dans les paroisses, tous ceux qui sont ou comptables ou trésoriers, qui recueillent cet argent et qui en prennent soin et qu'ils soient vraiment remerciés.
Et puis donner, c'est aussi donner les moyens à l'Église de vivre, d'avancer.
Oui, notre trésor, c'est pas l'argent. Notre trésor, on n'est pas riche, hein, sincèrement. Mais c'est cet enthousiasme, c'est la foi, c'est l'accueil des gens, c'est les enfants qui avancent dans la foi, dans le catéchisme, les aumôneries. C'est ça notre trésor. Mais il faut un cadre, il faut structurer un peu, et ça, c'est à financer.
C'est très simple pour faire un don pour le denier. On se rend sur le site du diocèse.
Exactement, c'est très simple. On peut aller sur le site, on peut faire un don en ligne, c'est sécurisé, c'est ce qu'il y a de plus facile. Ou bien envoyer un chèque à l'association diocésaine de Chartres et l'envoyer ici à Chartres et tout est facile.
Alors, Père, l'actualité, bien sûr, les célébrations de Noël qui sont maintenant imminentes. Parmi elles, la messe de minuit, c'est assurément l'un des grands temps forts de l'année liturgique. Des catholiques qui sont un peu éloignés de la pratique, eh bien pour eux, c'est souvent l'occasion de renouer avec l'Église. Est-ce qu'il faut inviter des gens à la messe de minuit ?
Alors, d'abord, moi, ce qui m'amusait, c'est que quand j'étais curé, notamment sur Paris, les gens appelaient. La question, c'était au téléphone. Alors, mon père, à quelle heure est la messe de minuit ?
La grande question.
Vous voyez, la grande question, ah, oui. Parce que souvent, elles étaient, non pas à minuit, mais à 10h ou à 9h. Moi, quand j'étais gamin, on dormait le soir, et les parents nous réveillaient à minuit moins le quart ou 11h30. On partait, parfois dans la neige d'ailleurs, à cette messe un peu mythique de minuit, qui était vraiment un événement. Et à Chartres, notamment à Cadral, la messe de minuit, eh bien, est à minuit. Donc ça, c'est un bel événement. Et donc, alors maintenant, par rapport à votre question, moi, je pense qu'il faut inviter tout le monde, bien sûr. Mm-hmm. C'est une belle fête. Elle est joyeuse. On retrouve ces cantiques. Il est le divin enfant. Enfin, ces cantiques qu'on a plus ou moins entendues dans sa mémoire. On les a en tête et on va chanter ça ensemble. Il n'y a qu'une douceur de... Oui, venez tous. Vraiment, si vous hésitez, je vous invite dans votre paroisse ou à Chartres, en tout cas. C'est heureux, oui.
Alors, pour finir, Père, vous aimeriez partager une découverte. Vous m'avez parlé de ça en préparant cette émission, celle de l'atelier du vitrail de Claire Babet à la Bourdinière Saint-Loup. Alors, je suis curieuse d'en savoir un peu plus.
Voilà, j'ai été invité, en fait, par un groupe de personnes, notamment qui sont les neuf bâtisseurs, qui sont des entrepreneurs de Chartres et des environs qui financent Chartres Sanctuaire du Monde, qui est une association qui elle-même soutient le financement de la cathédrale, de la restauration, notamment des grandes baies, des grands vitraux à faire encore pour le transept, pour les transepts de Chartres. Et j'ai été invité chez Claire Babet, qui est donc à une vingtaine de kilomètres du centre de Chartres, qui a un atelier de vitrail avec 4 collaborateurs. J'étais très surpris par à la fois cette femme dynamique, vivante, très, très heureuse, très passionnée par ce qu'elle fait, identique, pareillement pour ses collaborateurs. Et notamment, cet atelier-là a refait beaucoup de vitraux de notre cathédrale, notamment la grande rosace du portail occidental, donc la grande rosace qui est au-dessus du portail royal. C'est eux qui l'ont eu donc, à demeure. On a pu découvrir le travail de décapage, de nettoyage, de réparation, de recherche aussi historique, d'analyse des verres, des couleurs, des matériaux du verre. Donc, tout un travail très scientifique.
Un travail vivant, c'est ça aussi.
Très vivant. Vous savez, quand on parle du patrimoine, parfois on parle du patrimoine en tant que les pierres, les structures, l'architecture, mais il y a un patrimoine vivant. Donc là, on voit, on peut toucher du doigt auprès de ces personnes-là que le patrimoine, c'est un savoir-faire vivant. Et c'est heureux d'avoir des financements, alors privés en l'occurrence de ces bâtisseurs, mais aussi de l'État ou d'organismes de soutien, parce que ce patrimoine est une richesse en France, un savoir-faire. Et pour qu'ils se maintiennent, il faut qu'il y ait des chantiers. Pour qu'il y ait des chantiers, il faut qu'il y ait de l'argent. Donc merci à tous ceux qui donnent, à tous les bienfaiteurs qui soutiennent, et aussi à Stéphane Bern d'ailleurs, qui a une maison dans le diocèse, et qui est très très zélé pour ce patrimoine, à la fois sacré ou profane, mais qui fait la richesse de la France.
Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël dans les différentes paroisses du diocèse de Chartres et plus largement un joyeux Noël à tous les chrétiens qui nous écoutent. Monseigneur Philippe Christori, je vais vous laisser avec plaisir le dernier mot.
Moi, je suis très heureux de souhaiter déjà un très heureux Noël à tous ceux qui nous écoutent. C'est une belle fête de la simplicité, une fête de l'accueil. J'espère que vous pourrez vivre cette fête avec des amis, une famille peut-être, j'espère aussi pour vous. En tout cas, sachez que nos églises sont ouvertes aussi avec des crèches, que vous pourrez visiter ces crèches. Il y a des parcours dans des campagnes de différentes églises avec des crèches. Donc voilà, que votre cadeau soit cette joie d'être ensemble. Vous voyez, parfois on dit moins de bien, plus de lien, moins d'achats sur tous ces produits qui nous encombrent au bout du compte. Mais beaucoup plus d'amitié, de liens, en tout cas très joyeux Noël.
Merci.